Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éducation ici et ailleurs, un podcast qui va à la rencontre du coordinateur de chaque numéro de la revue internationale d'éducation de Sèvres, édité par France Éducation Internationale. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de José Beinstein, sociologue, professeur à l'université Diego Portales au Chili, et de Werner Zettelmeier, ancien professeur associé à l'université Sergi Pontoise. Il est également spécialiste de l'analyse des systèmes éducatifs français et allemands. Ensemble, ils coordonnent le 91e numéro de la revue intitulé « Les syndicats d'enseignants au XXIe siècle ». Dans la plupart des pays, la mise en place d'un système scolaire public s'est accompagnée de la création de syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, les syndicats d'enseignants sont au centre de la discussion sur les changements éducatifs. Perçus comme un obstacle aux réformes nécessaires ou défenseurs de valeurs et d'intérêts, le dossier présenté dans ce numéro s'éloigne de la logique polarisée pour revenir sur l'évolution du syndicalisme au début de ce siècle. Nos deux invités nous livrent un aperçu des points saillants qui se dégagent à la lecture de ce numéro. Dans de nombreux pays, la création des syndicats d'enseignants est liée à la mise en place d'une éducation publique au XXe siècle. À quels besoins cela répondait-il ?
Eh bien, je pense que c'est lié à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la création d'une corporate identity, mais c'est certainement aussi le fait qu'à la fin du XIXe siècle, quand l'enseignement s'est démocratisé et surtout les couches populaires avaient eu accès à l'enseignement général sous forme d'école primaire en France et dans d'autres pays, les Volksschulen par exemple dans l'espace germanique, il a fallu recruter beaucoup d'enseignants et ces enseignants avaient bien sûr aussi besoin de définir leur métier, d'être pris en main en quelque sorte et de se structurer. Et cette structuration, surtout de l'enseignement primaire, a abouti par la suite, pour ce qui est de l'enseignement public, à la création de syndicats. C'est moins évident pour l'enseignement secondaire, parce que dans l'enseignement secondaire, c'était au départ surtout des associations professionnelles qui ne se voyaient pas comme étant des syndicats qui se sont créés. Et d'autant plus que cet enseignement secondaire, dans un premier temps au moins, était assez réservé à une petite élite bourgeoise. Et les enseignants du secondaire ne se voyaient pas au niveau de syndicalistes comparables à ce qui était dans d'autres secteurs d'activité, les syndicats d'ouvriers par exemple.
Vous voyez qu'on est en train de parler du monde et d'une vision globale. C'est très difficile de parler d'une vision globale parce qu'en fait, il y a de différentes réalités. Mais en fait, je pense qu'au moins dans l'Amérique latine aussi, c'est un peu la même logique que Werner a souligné, du point de vue de que, en fait, c'est surtout dans le début du XXe siècle, dans la première moitié, qu'ils se sont constitués la majorité des syndicats des enseignants, mais qu'ils sont très influencés aussi par les luttes ouvrières, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les syndicats qui se sont constitués d'une façon isolée, séparés du monde ouvrier, mais aussi ils sont accompagnés un moment de lutte populaire, d'organisation populaire dans laquelle les enseignants étaient très, très actifs.
C'est très intéressant, en effet, de voir comment la montée et la mise en place du syndicalisme a été menée dans ces différents pays. Et aujourd'hui, si l'on parlait de la situation à l'heure actuelle, en 2022, dans les pays étudiés, comment le syndicalisme est-il perçu ?
Il y a des pays tels que nous les avons étudiés où il est très clair que l'opinion publique a parfois une attitude ou un avis plutôt négatif, à savoir en ce sens que les syndicats empêchent l'innovation, empêchent les réformes et les syndicats défendent le statu quo. Mais on a aussi d'autres exemples, notamment, je fais référence à l'article qui est paru sur l'Inde, où les syndicats sont vraiment porteurs d'innovation, notamment pour ce qui est de la qualité de l'enseignement. Et donc, il est difficile de dresser un bilan, consensuel sur ce que peuvent penser les opinions publiques ou les pouvoirs publics des syndicats, puisque les syndicats sont très différents d'un pays à l'autre, pour des raisons à la fois historiques, culturelles, économiques et sociales, mais aussi que la situation dans laquelle les syndicats ou l'enseignement évoluent n'est pas du tout comparable d'un pays à l'autre. Si on compare, par exemple, un pays comme l'Inde, où il y a d'énormes disparités, à la fois en termes de public-privé, en termes de langue, en termes de caste, en termes de niveau social, et un autre pays comme la Suède, où il y a quand même beaucoup plus d'homogénéité des conditions de vie, ce n'est pas du tout comparable. Et donc l'appréciation que peut avoir un Suédois de ses syndicats d'enseignants ne peut pas être forcément comparable à l'appréciation que peut avoir un Indien.
Je voudrais complémenter aussi que je pense que c'est très important de voir qu'en général, les syndicats d'enseignants ont une vision très importante dans le pays. Ils sont très centrales du point de vue de que les enseignants, ce sont aussi des acteurs importants qui ont une légitimité très forte. C'est-à-dire les enseignants comme les médecins sont en général les professions qui sont plus légitimées dans les sociétés. Alors, leurs organisations aussi, dont vient le pays, sont très légitimées aussi. Et on a une sorte de solidarité vis-à-vis de la situation des enseignants parmi des amples couches de la population.
D'accord. Donc, si je vous suis bien, bien qu'il soit difficile de tirer une appréciation générale dans l'ensemble des pays étudiés sur la manière dont on perçoit le syndicalisme d'enseignants aujourd'hui, il s'avère quand même qu'on peut, on peut tout de même dire qu'il y a une forme de solidarité dans tous les pays étudiés, en tout cas, pour les syndicats d'enseignants, puisqu'il y a une forme de proximité, peut-être, avec le corps enseignant.
Oui, tout à fait. Je pense que chacun a une expérience avec l'éducation, soit par ce qu'il a été lui-même élève, mais aussi dans les familles, chacun est confronté à l'existence des enseignants. Et donc, je pense qu'il y a cette solidarité s'exprime, puisque c'est utile, c'est important. On veut que ces enfants réussissent. Et bien sûr, cette réussite sociale est très largement tributaire aussi de la réussite de l'école ou de l'éducation. Et donc, le rôle de l'enseignant est primordial. Reste à savoir maintenant si ça se traduit aussi ou si ça se transmet aussi aux organisations qui sont censées représenter les intérêts des enseignants, à savoir les syndicats.
Très bien, merci beaucoup. Et concernant justement l'évolution de ce syndicalisme enseignant, est-ce qu'on peut constater aujourd'hui est-ce qu'ont émergé de nouvelles formes de syndicats d'enseignants?
On a pu constater qu'il y a bien de pays dans lesquels il y a un renouveau du syndicalisme. D'un côté, il y a l'éducation qui a de nouveaux défis. Et alors, on ne peut pas se poser les questions éducatives de la même façon qu'on le posait dans le XXe siècle. Mais il y a aussi un certain besoin de changer la façon de s'organiser, de travailler de syndicats eux-mêmes. Alors, on constate dans bien de pays que, par exemple, il y a un renouveau du syndicalisme dans lequel on fait un nouveau type de rapport avec le parti politique, dans lequel il était dans certains pays très proche et d'une certaine façon, le parti politique avait une vision, une possibilité de manipuler le syndicat. Il y a bien des pays dans lesquels le syndicat eux-mêmes, maintenant, ont une autonomie très forte. Ils sont possibles de se manifester dans une agenda qui leur est absolument propre. De notre côté aussi, on voit qu'il y a de jeunes, une nouvelle génération dans la forme d'organiser et de poser des discussions au sein de certains syndicats, dans lesquels il y a des façons de discuter, de se réunir, qui est absolument nouvelle aussi, dans laquelle il y a des intérêts de nouveaux sujets, par exemple le sujet de genre, le sujet de femmes dans l'enseignement, qui est sûrement très importante pour l'avenir des syndicats. Parce qu'on a parlé auparavant de quelle était la vision de pays, de société, de citoyens en général vis-à-vis les syndicats, mais aussi on doit poser la question de quelle est la vision qu'ils ont les enseignants des syndicats. Et dans laquelle aussi, il y a un défi très important pour cette forme d'organisation de capturer les revendications, le sens commun, la culture de nouveaux enseignants et d'être capable de les attirer et de les réunir. On le voit dans le cas de l'Inde, mais aussi dans le cas de la Suède, par exemple, c'est assez intéressant, et aussi aux États-Unis. On voit qu'il y a de nouvelles formes de syndicalisme qui sont en train d'attirer cette nouvelle génération d'enseignants, qui je pense que sera nouveau et essentiel.
Bien, merci beaucoup, José. Werner ?
Je souscris entièrement. C'est surtout les trois pays que José vient de citer qui me paraissent tout à fait exemplaires à ce titre, à savoir une approche plus globale, plus entière de la problématique de l'enseignement et pas seulement ce qu'on a reproché aux certains enseignants reprochent à leurs syndicats de parler uniquement à ceux qui sont déjà syndiqués. Et donc d'aller au-delà et de ne pas seulement avoir un programme préétabli, mais d'être à l'écoute de tous les enseignants, y compris les non-syndiqués, et aussi de prendre les besoins de l'enfant dans sa totalité, dans sa globalité. C'est très particulièrement virulent, par exemple, dans le cas de l'Inde, mais aussi dans le cas des États-Unis, où il y a de très fortes inégalités sociales dans l'accès à l'enseignement. Et donc, si aux États-Unis, les syndicats classiques se sont vraiment concentrés sur les revendications très corporatistes, eh bien, la nouvelle tendance est d'avoir une approche plus globale et de prendre en compte aussi des problèmes qui dépassent le champ purement éducatif et de l'enseignement.
Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci encore pour vos contributions et vos éclairages qui, là encore, donnent à réfléchir sur ce sujet passionnant. Se termine ainsi le quatrième épisode de notre podcast « L'éducation ici et ailleurs ». Je vous remercie, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode.